La révélation de Jésus-Christ. Numéro 7. Le troisième malheur est l'avènement du septième royaume. La signification prophétique de la loi du dimanche.
Au chapitre 11 de l'Apocalypse, les deux témoins sont enlevés au ciel comme un étendard à la même heure où la dixième partie de la ville tombe. À cette heure-là, le second malheur est passé et voici, le troisième malheur vient promptement. L'islam est la septième trompette et le troisième malheur qui survient à l'heure du séisme de la loi du dimanche.
Et ils entendirent une grande voix venant du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et le dixième de la ville tomba, et dans le tremblement de terre, 7000 hommes furent tués, et le reste fut effrayé, et donna gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici, le troisième malheur vient bientôt. Et le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient « Les royaumes de ce monde sont passés à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent le visage contre terre et adorèrent Dieu, disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais et qui viens, parce que tu as pris en main ta grande puissance et que tu as régné. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps des morts pour qu'ils soient jugés et pour que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et on vit dans son temple l'arche de son alliance. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 11, 12, 19.
Les deux témoins montent au ciel dans une nuée qui représente prophétiquement un groupe d'anges. Comme cela a été cité précédemment dans ces articles, et comme on le voit dans les tables d'Habacuc, Sir White précise que lorsque les messages individuels représentés par le premier, le deuxième et le troisième ange entrent dans l'histoire prophétique, ils sont présentés sous la forme d'un seul ange, mais le message du cri de minuit est représenté par de nombreux anges. Les deux témoins sont élevés au ciel tandis qu'ils proclament le message du cri de minuit au moyen d'une armée d'anges, ainsi ils sont emportés au ciel dans une nuée.
Vers la fin du message du deuxième ange, je vis une grande lumière venue du ciel resplendir sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière paraissaient aussi éclatants que le soleil. Et j'entendis des voix d'anges s'écrier « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre ». C'était le cri de minuit qui devait donner de la puissance au message du second ange. Des anges furent envoyés du ciel pour animer les saints, décourager et les préparer à la grande œuvre qui les attendait. Les hommes les plus capables ne furent pas les premiers à recevoir ce message. Des anges furent envoyés vers les humbles et les dévoués et les contraignirent à lancer le cri « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre !» Ceux à qui l'on avait confié ce cri se hâtèrent et, par la puissance du Saint-Esprit, firent retentir le message et ranimèrent leurs frères découragés. Cette œuvre ne reposait pas sur la sagesse et le savoir des hommes, mais sur la puissance de Dieu, et ces saints qui entendirent le cri ne purent y résister. Les plus spirituels reçurent ce message les premiers, et ceux qui avaient autrefois conduit l'œuvre furent les derniers à le recevoir et à contribuer à amplifier le cri « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre !» Premiers écrits, 238.
À l'heure du tremblement de terre, qui détruit un dixième de la ville, 7000 hommes sont tués. Le tremblement de terre représente la loi du dimanche aux États-Unis. Dans la prophétie, une ville représente un royaume, et les États-Unis sont un dixième du royaume des 10 rois d'Apocalypse 17. Les États-Unis sont renversés lors du tremblement de terre de la loi du dimanche et cessent d'être le sixième royaume de la prophétie biblique, puis deviennent le premier des 10 rois, le septième royaume de la prophétie biblique. Ceux-ci consentiront à donner leur royaume à la papauté, qui est la huitième et du nombre des 7.
Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent autorité comme roi pour une heure avec la bête. Ceux-ci ont un même dessein. Et ils donneront leur puissance et leur force à la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, où siège la prostituée, sont des peuples, des foules, des nations et des langues, et les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée, la rendront déserte et nue, mangeront de chair et la brûleront au feu. » Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir son dessein, d'être d'un même avis,
et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. » Apocalypse 17, 12, 18.
Les 10 rois des Nations Unies s'accordent pour donner leur royaume mondial à la bête. Ils ont une même pensée, tout comme ils se sont consultés d'un commun accord, dans le psaume 83. Achab était le roi des 10 tribus, qui a entretenu une relation illicite de fornication avec la prostituée de Tyr, dans Ésaïe 23. La relation illicite d'Achab et de Jézabel préfigurait la relation illicite d'Hérode et d'Hérodiade au temps d'Élie, représentée par Jean-Baptiste. Hérode était un représentant de l'Empire romain, qui, dans Daniel 7, est décrit comme composé de 10 cornes. Les 10 cornes étaient préfigurées par le royaume d'Achab, composé de 10 tribus, et tous deux témoignent des 10 rois des Nations Unies. Alors qu'Achab et Hérode représentent l'État dans ses relations illicites, leur rôle était d'accomplir la persécution des hérétiques pour la prostituée de Tyr, qui chante ses chants à la fin des 70 années symboliques.
Les rois, les dirigeants et les gouverneurs ont apposé sur eux-mêmes la marque de l'Antéchrist et sont représentés comme le dragon qui va faire la guerre aux saints, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Témoignage au ministre 38.
Lors de la loi du dimanche, la bête de la terre cesse de régner en tant que sixième royaume de la prophétie biblique, car elle vient de se prostituer avec Jézabel, puis prend la direction des Nations Unies. Elle contraint alors le monde entier à ériger une image mondiale de la bête, comme ils l'avaient auparavant accompli lors de la loi du dimanche dans leur pays.
Est-il séduit les habitants de la terre par les miracles qui lui a été donné d'accomplir en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui a repris vie? Et il lui a été donné de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse mettre à mort tous ceux qui ne voudraient pas adorer l'image de la bête. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque à la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Apocalypse 13 d'Actafet des Siliettes.
Achab, Hérode, les 10 rois de l'Empire romain et les 10 rois des Nations Unies représentent le dragon qui va faire la guerre aux saints. Car c'est toujours l'amant de Jézabel qui se charge de persécuter ceux que Jézabel qualifie d'hérétiques.
Ainsi, alors que le dragon représente principalement Satan, il est dans un sens secondaire un symbole de la Rome païenne. La Grande Controverse, 439.
Au moment du tremblement de terre lié à la loi du dimanche, 7000 hommes sont tués. Dans Daniel 11, verset 41, beaucoup tomberont. Ceux qui tombent lorsque la loi du dimanche arrive sont des adventistes du septième jour Laodicéens, qui ne se sont pas préparés à la crise. Le nombre 7000 représente le reste du peuple de Dieu. Dieu a dit à Élie, lors de la crise du Mont Carmel, qui représente la crise de la loi du dimanche, qu'il y avait 7000 en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. L'apôtre Paul commente cela.
Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture au sujet d'Élie? Comment il adresse à Dieu une plainte contre Israël en disant « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont renversé tes autels et je suis resté seul et ils cherchent ma vie. » Mais que lui répond Dieu? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant l'image de Baal. » De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Romains 11, 1, 5.
Les mots « 7000 » représentent un reste du peuple de Dieu, mais il faut tenir compte du contexte dans lequel ils sont identifiés symboliquement. Les hommes renversés lors du tremblement de terre de la loi du dimanche sont le reste d'adventistes du septième jour infidèles, qui, là et alors, sont emmenés captifs par la Babylone spirituelle moderne. Dans l'histoire prophétique de l'ancien Israël littéral, lorsque Babylone dévasta Jérusalem pour la deuxième des trois fois, il y eut un reste de 7000 hommes vaillants du pays emmenés captifs.
Et il emmena Jéhoiachin à Babylone, ainsi que la mère du roi, les femmes du roi, ses officiers et les puissants du pays. Il les emmena en captivité de Jérusalem à Babylone. Et tous les hommes vaillants, au nombre de 7000, et les artisans et les forgerons, au nombre de 1000, tous ceux qui étaient robustes et propres à la guerre, le roi de Babylone les emmena eux aussi captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit Matania, frère de son père, roi à sa place, et changea son nom en Zédéchia.
2 Rois 24:15-17.
Une fois que les puissants de Jérusalem auront été renversés par le tremblement de terre de la loi du dimanche, le troisième malheur vient rapidement. Et le septième ange sonna. Le troisième malheur est la septième trompette que sonne le septième ange. À l'heure du tremblement de terre de la loi du dimanche, l'islam frappe. L'une des caractéristiques principales de l'islam, lors du premier et du second malheur, était le fait historique que leur mode de guerre ne ressemblait pas aux tactiques de combat courantes pratiquées dans l'histoire au moment où ils accomplissaient leur rôle prophétique. Leur mode de guerre consistait à frapper soudainement et à l'improviste. Le mot « assassin » dérive des pratiques des guerriers musulmans de cette période de l'histoire. Leurs attaques étaient semblables à celles des kamikazes japonais de la Seconde Guerre mondiale. Les guerriers musulmans s'attendaient à mourir lorsqu'ils assassinaient leurs cibles. Pour cette raison, une pratique courante chez ces guerriers consistait à se préparer à la mort en se droguant au hashish avant leur attaque, afin de contribuer à vaincre la peur de la mort. Lorsqu'ils frappaient leurs victimes, c'était soudain et inattendu, et leur dépendance au hashish pour obtenir l'état mental recherché, combinée à l'attaque secrète, constitua la base étymologique du mot « assassin », en raison de son lien avec le mot « hashish ». Le troisième malheur et la septième trompette viennent bientôt. De même, le 22 octobre 1804, le messager de l'Alliance vint soudainement à son temple. Sir White a défini la soudaineté de l'arrivée du messager de l'Alliance, indiquant que sa venue était inattendue. Par conséquent, les quatre venues qui se sont accomplies le 22 octobre 1804 étaient inattendues et soudaines.
La venue du Christ en tant que notre souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour la purification du sanctuaire, tel que présenté dans Daniel 8:14, la venue du Fils de l'homme auprès de l'Ancien des jours, tel que présenté dans Daniel 7:13, et la venue du Seigneur dans son temple, annoncée par Malachie, sont des descriptions du même événement. Et ce même événement est également représenté par la venue de l'époux aux noces, décrite par le Christ dans la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. La grande controverse, 426.
La parabole des 10 vierges est répétée à la lettre. Ainsi, les quatre venues qui se sont accomplies le 22 octobre 1844 doivent s'accomplir à nouveau, à la lettre, lors du tremblement de terre que constitue la loi du dimanche. Commentant la parabole des vierges, Sir White apporte un témoignage supplémentaire qui identifie la soudaineté et le caractère inattendu symbolisé par le tremblement de terre que constitue la loi du dimanche, lequel est l'accomplissement parfait du cri de minuit.
Le caractère se révèle lors d'une crise. Lorsque la voix grave proclama, à minuit, « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre. » Les vierges endormies furent tirées de leur sommeil et l'on vit qui s'était préparé pour l'événement. Les deux groupes furent pris au dépourvu, mais l'un était prêt pour l'urgence et l'autre fut trouvé sans préparation. Le caractère se révèle par les circonstances. Les situations d'urgence font ressortir la véritable trempe du caractère. Quelques calamités soudaines et imprévues, un deuil ou une crise, quelques maladies ou angoisses inattendues, quelque chose qui place l'âme face à face avec la mort, mettra au glure le fond véritable du caractère. Il apparaîtra s'il existe une foi réelle dans les promesses de la parole de Dieu ou non. Il sera manifeste si l'âme est soutenue par la grâce, s'il y a de l'huile dans le vase avec la lampe. Des temps d'épreuve viennent à tous. Comment nous comportons-nous sous l'épreuve et la mise à l'épreuve de Dieu ? Nos lampes s'éteignent-elles ou bien les gardons-nous encore allumées ? Sommes-nous préparés à toute éventualité par notre communion avec celui qui est plein de grâce et de vérité ? Les cinq vierges sages ne pouvaient pas transmettre leur caractère aux cinq vierges folles. Le caractère doit être formé par chacun de nous individuellement. Review and Herald, 17 octobre 1895.
Lors du séisme de la loi du dimanche, les États-Unis cessent d'être le sixième royaume de la prophétie biblique. Le reste des 7000 adventistes laodicéens, qui ne se sont pas préparés à la crise, manifestera un caractère prêt pour la marque de la bête. Alors l'islam arrive soudainement et à l'improviste, car le troisième malheur vient bientôt, lorsque le septième ange sonne. Les quatre événements, qui ont tous trouvé leur accomplissement le 22 octobre 1844, sont ensuite répétés. Le premier événement a identifié l'ouverture du jugement, en accomplissement de Daniel 8, verset 14. Il a confirmé le message du premier ange qui annonçait que l'heure de son jugement est venue. Cet accomplissement typifie l'heure du tremblement de terre, qui commence avec la loi du dimanche. Et c'est l'heure où l'islam fait tomber son jugement sur les États-Unis pour l'adoption d'une loi du dimanche. le messager de l'Alliance dans le chapitre 3 de Malachie est venu soudainement au temple qu'il avait édifié en 46 ans, de 12798 à 1844, pour conclure une alliance avec les Lévites de l'histoire millérite. Au séisme de la loi du dimanche, le messager de l'Alliance vient soudainement pour entrer dans le temple des ossements morts et desséchés, ressuscités, afin de conclure une alliance avec les Lévites de l'histoire des 144 000. Lors du tremblement de terre de la loi du dimanche, le Fils de l'homme vient auprès du Père pour recevoir un royaume, en accomplissement de Daniel 7, verset 13, comme il l'a fait le 22 octobre 1844. Car à l'heure du tremblement de terre, il y a des voix dans le ciel qui proclament que les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leur siège, se prosternèrent le visage contre terre et adorèrent Dieu, disant « Nous te rendons grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, parce que tu as pris ta grande puissance et as régné. » À l'heure du tremblement de terre, lorsque son jugement est venu et que les deux témoins, auparavant ressuscités dans la rue où ils avaient été assassinés, se lèvent, alors, comme une armée puissante, ils sont enlevés au ciel, tandis que les 7000 adventistes laodicéens restants sont renversés. Le bon grain y a aussitôt été séparé de l'ivraie insensée. Le Christ reçoit alors son royaume et la septième trompette retentit, qui est aussi le troisième malheur, lequel survient soudainement et à l'improviste, et alors, les nations sont irritées et ta colère est venue. Irritation des nations est le rôle prophétique de l'islam. Elle commence à l'heure du tremblement de terre et se poursuit jusqu'à la fin du temps de grâce pour l'humanité et jusqu'aux sept dernières plaies, qui sont introduites par ces paroles. Ta colère est venue. Entre la loi du dimanche aux États-Unis et la fin du temps de grâce, moment où la colère de Dieu se manifeste dans les sept dernières plaies, le troisième malheur, symbole de l'islam, la septième trompette, symbole de l'islam, et l'irritation des nations, symbole de l'islam, fournissent trois témoins symboliques attestant que le message du cri de minuit est l'accomplissement de l'arrivée de l'islam au moment de la loi du dimanche. Comme au début du mouvement Millach, Zipperer avec une opinion totale. Le message du cri de minuit fut une correction d'une prédiction erronée. Dans l'histoire Millach, Zipperer avec une opinion totale. Il s'agissait de l'échec de l'événement qui était étudié, censé se produire. Au début de l'histoire Millach, Kuyaror ont présenté leur prédiction erronée, parce que Dieu avait posé sa main sur une erreur du tableau de 1843. Dans le mouvement Laodicea, à la fin de Future for America, Dieu n'a jamais couvert l'erreur de sa main. Ce sont des mains humaines qui ont couvert la vérité selon laquelle le temps ne devait plus être utilisé dans l'application prophétique. Les mains humaines représentent les œuvres humaines. Dans le mouvement final des 144 Meo, l'erreur consistant à utiliser le temps était un péché, car le temps prophétique ne devait plus être employé. L'usage pécheur du temps était typifié par Moïse, qui négligea l'ordre de Dieu de circoncire son fils, et par Uzza, qui négligea l'ordre de Dieu selon lequel seuls les prêtres pouvaient manier l'arche. Ce n'était pas la volonté du Seigneur que l'une ou l'autre de ses actions ou inactions pécheresses soit accomplie par le peuple de Dieu. Le péché n'a qu'une seule définition. C'est la transgression de la loi. Moïse a transgressé la loi de Dieu relative à la circoncision. Uzza a transgressé la loi de Dieu relative au sanctuaire. Et ce mouvement a transgressé la loi prophétique de Dieu. L'Israël ancien a été constitué dépositaire de la loi de Dieu. Et le mouvement adventiste, à son commencement comme à sa fin, a également été constitué dépositaire des vérités prophétiques de Dieu. Dans sa détresse, Séphora pratiqua immédiatement elle-même la circoncision de leur fils, représentant ainsi le repentir que devaient immédiatement manifester ceux qui étaient impliqués dans ce mouvement pour l'inaction pécheresse, consistant à permettre que l'application du temps soit associée au message. De même, David manifeste un profond repentir à propos de l'acte d'Uzza. Que le mouvement soutienne que l'application du temps dans la prédiction du 18 juillet 2020 était d'une certaine manière correcte, que c'était en quelque sorte la volonté de Dieu, revient à soutenir que Moïse et Séphora n'avaient pas réellement besoin d'observer les commandements explicites de Dieu et que Dieu ne se souciait pas vraiment de savoir si Uzza touchait l'arche. Le 18 juillet 2020 a été une fausse prédiction et l'élément qui était faux était l'élément du temps. Ces vérités seront explorées plus en détail dans le prochain article.
Le Seigneur m'a montré que le message du troisième ange doit être porté et proclamé aux enfants dispersés du Seigneur, et qu'il ne doit pas reposer sur le temps, car le temps ne sera plus jamais une épreuve. J'ai vu que certains se laissaient gagner par un faux enthousiasme né de la prédication sur le temps, que le message du troisième ange était plus fort que ne peut l'être le temps. J'ai vu que ce message peut se tenir sur son propre fondement, qu'il n'a pas besoin du temps pour le fortifier, qu'il ira avec une grande puissance, accomplira son œuvre et sera abrégé dans la justice. Expérience et vision, 48.